Il vaut mieux être plongé dans l'eau que dans le feu. Aujourd'hui, subir un déluge d'eau que de feu. Mais il vaut mieux être plongé dans l'eau du baptême que dans le feu de l'enfer. Il vaut mieux être plongé et ressortir purifié de l'eau du baptême que d'être plongé pour toujours et condamné éternellement au feu de l'enfer. L'enfer, c'est un feu éternel, une fournaise qui ne s'éteint pas. Une immense géhenne, dit à plusieurs reprises l'Évangile, c'était le nom du lieu à Jérusalem de la décharge, c'est-à-dire d'un lieu à ciel ouvert où on faisait brûler tous les immondices et les déchets. Et Jésus a prévenu de façon extrêmement ferme et claire qu'il n'y a rien de pire que d'être jeté dans ce feu qui ne s'éteint pas. Là, dit-il, dans un autre passage de l'Évangile, où le ver grouille, l'image est peu ragoûtante de la vermine, où le feu est si violent. Nous avions une partie de l'image dimanche dernier quand Jésus nous exhortait à nous faire un trésor dans les cieux. Là, disait-il, où il n'y a pas de voleurs et où il n'y a pas de vermine, où la mite ne ronge pas. Même si c'est vraiment désagréable à entendre, puis-je vous rappeler que corporellement, nous finirons ainsi, rongés par la vermine ou dévorés par le feu, inhumation ou crémation. C'est pas très agréable. L'Église, qui le sait, nous donne en première lecture, vis-à-vis de ce passage d'Évangile, l'histoire du prophète Jérémie, à qui on dit « Non, non, faut pas parler comme ça ». On lui reprochait de démoraliser le peuple, de démoraliser les gens à parler comme il le faisait. La même chose, non, parlez pas de l'enfer, vous allez démoraliser les gens. Ou alors, parlez-en comme on en parle aujourd'hui, comme un truc pour les naïfs, pour les nigauds, un truc du passé, une idée creuse. Comme si Jésus n'en avait pas parlé comme il en a incontestablement parlé. Le feu éternel de l'enfer. Le feu passager purificatoire du purgatoire. Le premier diffère du second en ce que du premier on n'en sort pas. C'est la meilleure arme contre la médiocrité. Ce que la tradition spirituelle appelle la tiédeur de volonté. Dieu n'aime pas les tièdes. Et ce religieux que je citais il y a quelques dimanches, dont Jean-Baptiste Chotard, disait « Si j'avais le malheur de tomber dans cette tiédeur, de devenir mou, tiède, médiocre, pour pas imaginer pire encore, je devrais tout essayer pour m'en sortir, pour revivre, pour reprendre vie. » Et il dit « La première chose à faire, raviver ma crainte de Dieu. » Me mettre en présence du jugement dernier, du feu de l'enfer, de ma propre mort. La crainte de Dieu, c'est vital. C'est vital s'il fallait une image comme un frein dans une voiture. Dans la conduite de notre vie, il y a un moteur, un accélérateur extrêmement puissant qui est le désir. Nos désirs, tous nos désirs. Et la peur, c'est le frein. C'est très dangereux de ne pas avoir peur. Alors oui, l'enfer existe, mais rassurez-vous, n'iront que ceux qui veulent y aller. Personne ne veut y aller. Malheureusement, si. Tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, tous ceux qui disent plutôt crever que de reconnaître Dieu comme créateur et sauveur, plutôt crever que de demander pardon, plutôt crever que d'être humble, que de reconnaître mes torts, plutôt crever que de partager, plutôt crever que de faire attention aux autres, plutôt crever que de prier. L'enfer, dit le catéchisme, c'est un choix personnel. C'est un état d'auto-exclusion. D'auto-exclusion, c'est un choix personnel. D'auto-exclusion définitive avec Dieu et avec les autres. Jésus est venu apporter ce feu qui est l'envers du baptême. L'enfer n'existait pas avant Jésus, puisqu'il est le Sauveur. Par lui, les cieux se sont ouverts. C'est l'image, c'est ce qu'on constate à son baptême par Jean-Baptiste. Les cieux s'ouvrent et on voit l'Esprit se manifester sous la forme d'une colombe, le symbole de la paix. Mais au jour de la Pentecôte, ce n'est pas sous la forme d'une colombe. Ce sont des langues de feu qui se déposent sur chacun des apôtres. Des langues de feu. Et ceux qui entendent ensuite Pierre proclamer les merveilles de Dieu comprennent bien ce que ça a de redoutable. Redoutable. Lorsque Pierre leur dit « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié », d'entendre cela, dit le texte, ils eurent le cœur transpercé. Ils furent plus de 3000 ce jour-là se faire baptiser. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir le cœur transpercé pour se faire baptiser. Les générations passées savaient que le baptême est nécessaire. Nécessaire pour la vie éternelle, auprès de Dieu, avec ceux qui nous ont quittés. Et le disaient de façon assez ferme, violente, dure. Nécessaire pour ne pas aller en enfer. Baptême n'est pas suffisant parce que c'est une porte d'entrée. Mais il est nécessaire, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas baptisés ne seront pas sauvés. Il existe d'autres baptêmes que sacramentels. Il y a le baptême de désir, il y a le baptême de sang. Il y a toutes sortes d'autres façons d'entrer dans l'amour de Dieu. Mais ça signifie que l'union au Christ, c'est la condition d'entrer dans la vie éternelle. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit Jésus. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et il n'y a qu'un seul médiateur, son Fils unique, le Christ. Au début de l'été, j'ai rencontré sur le parvis devant l'église une femme charmante qui était là, discutait avec un homme qui s'est approché de moi et qui s'est présenté. Elle m'a dit « Ah, c'est parce que je me présente, j'ai inscrit mon enfant pour la rentrée au catéchisme ici ». Et elle m'a présenté son compagnon, je ne sais pas si c'était le père de l'enfant, peu importe, mais elle m'a dit « Il n'est pas baptisé ». Alors je lui ai dit, qu'à cela ne tienne, où se trouve de l'eau, prenons de l'eau. C'est un peu moins rapide que ça, mais je lui ai proposé effectivement d'être baptisé. Je lui ai d'abord rassuré ce qui est indispensable aujourd'hui, rassuré sur les modalités de préparation, d'accès au baptême. On en a fait aujourd'hui, on ne va pas dire un enfer, on en a fait un chemin de croix pour les adultes. Il est toujours possible, comme au premier siècle, de baptiser d'abord et d'évangéliser ensuite, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ont grandi dans une culture chrétienne, parfois au sein d'une fratrie, l'un était baptisé, pas l'autre, et des personnes qui savent parfois mieux que les baptisés ce dont il s'agit. Alors je lui ai dit, vous ne voulez pas être baptisé cette année ? Oui, il n'était pas contre. Peut-être plus tard. Mais surtout, il ne voyait pas vraiment l'intérêt. Il faut le dire les choses très clairement. Il ne voyait pas l'intérêt, sinon des obligations supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Qu'est-ce que vous lui auriez dit ? Qu'est-ce que vous dites à des personnes, des proches, aux familles qui ne sont pas baptisées ? Pourquoi est-ce qu'il faut être baptisé ? Pour faire partie de la famille des enfants de Dieu ? C'est comme si des fiancés me disaient qu'ils veulent se marier pour entrer dans la belle famille. Bon, que certains ne soient pas satisfaits de la leur, qu'ils trouvent dans la famille de l'autre des relations qu'ils n'ont pas connues. Mais on n'épouse pas la personne qu'on aime pour sa famille. Le plus souvent d'ailleurs, c'est malgré sa famille. Pas plus qu'on ne demande le baptême pour entrer dans l'Église. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est malgré l'Église. On demande le baptême si on est prêt à reconnaître que le Christ est le Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire prêt à le faire passer en premier, reconnaître sa divinité. Nous l'entendrons dans quelques dimanches. Il faut le préférer, dit-il, être prêt à renoncer, le texte est extrêmement fort, renoncer aux personnes les plus proches et même à sa propre vie pour le suivre. Et c'est en ce sens que je vous propose d'entendre ce passage difficile de l'évangile de ce dimanche sur ces divisions que le Christ peut susciter au sein d'une famille. Entre générations, entre le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Pourquoi ? Parce que les différences de génération, ce sont des lieux de tension naturelle. Différences d'âge, de statut, de pouvoir, parfois accentuées par la culture. J'ai rencontré l'autre jour une Coréenne qui m'expliquait qu'en Corée, plutôt en France ou en Europe, elle était très choquée qu'on puisse s'adresser presque familièrement à des gens qui sont plus âgés. Il y a une façon là-bas de... Il y a une hiérarchie en fonction de l'âge. Quand on se présente, on dit son âge pour savoir si on peut être familier à quelqu'un de plus jeune, mais s'il est un petit peu plus âgé, non, ce n'est pas le même cadre. Donc il y a des différences culturelles, mais ce sont des lieux de tension naturelle, ces différences d'âge, de génération, disons, qui deviennent décisifs lorsqu'il s'agit d'avoir des relations fraternelles. Parce que c'est ça l'enjeu du baptême, de vivre comme des frères, de se reconnaître frères et sœurs dans le Christ. Pourquoi est-ce qu'il faut être baptisé ? Pour vivre en frère, pour que le Père traite son fils, une fois qu'il est parvenu à l'âge adulte, comme son égal. La mère, la fille comme son égal. Tant de fois ici avec une paroissienne aujourd'hui décédée qui avait les plus grandes difficultés avec sa propre fille, je lui reposais la même question. Est-ce que vous considérez votre fille? Elle était grand-mère, sa fille avait été mère de famille. Est-ce que vous considérez votre fille comme votre égale? Votre égale, votre sœur dans le Christ. Nous sommes tous frères, enfants d'un même Père. Et ce n'est pas un hasard si à la messe, c'est après avoir prié le Notre Père. Ce n'est pas toujours vrai. À Milan, il y a ce qu'on appelle le rite ambrosien. L'échange de paix se fait au moment de l'offertoire. Mais dans l'Église catholique universelle, le plus souvent, c'est après avoir prié le Notre Père que nous échangeons ce geste de paix. Et c'est très fort lorsqu'il est échangé par des personnes qui vivent ensemble, des couples, des familles, lorsque les motifs de friction, de tension sont quotidiens, sont si courants. Ça signifie la paix du Christ que le Seigneur nous donne, que l'Esprit Saint nous donne de pouvoir vivre comme des frères, de pouvoir rendre concrète cette réalité, enfant d'un même Père. Il y a un psaume qui le dit de façon magnifique, le psaume 132 qui dit « Comme il est bon de vivre comme des frères, d'être unis comme des frères. » Il dit, c'est un baume précieux, c'est un parfum sur la tête, comme l'onction du Saint-Crème pour le baptême. C'est semblable à la rosée de l'Hermon, c'est-à-dire le souffle rafraîchissant de l'Esprit-Saint. Et il conclut, c'est ainsi que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et nous donne la vie éternelle. La mission des parents, c'est de faire de leurs enfants leur égal dans le Christ. Ils seront toujours leurs parents, que les enfants doivent respecter avec, surtout aujourd'hui, l'indulgence, la clémence, fondamentalement la gratitude pour ceux qui ont exercé une mission difficile. Mais vivre comme des frères, ça suppose que chacun soit plus prompt à se convertir soi-même, purifier ses propres péchés que ceux des autres. Ainsi des parents vis-à-vis de leurs enfants, ainsi fondamentalement d'abord des prêtres. L'exemple n'est pas le meilleur moyen d'éduquer, de conduire, de diriger. C'est le seul. Pourquoi être baptisé? Un seul exemple, le Christ.